C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Beaucoup d'entre nous souhaitent changer les choses, avoir une vie qui a du sens. Christian de Boisredon aide cela et il l'a fait en créant Spark News il y a plus de 10 ans. Spark News qui met en avant tout ce qui se fait de positif pour améliorer notre société et l'avenir de notre planète.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Christian de Boisredon, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes fondateur de Spark News, c'était en 2011, vous êtes entrepreneur social, c'est une entreprise sociale, alors c'est une agence de médias, c'est une agence qui fait de l'environnement auprès des entreprises, c'est assez complexe en fait, est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Alors effectivement, on fait de la transformation culturelle sur les sujets socio-environnementaux, aussi bien de la société au sens large, notamment avec les médias, je vais y revenir, et puis avec les entreprises, pour les aider à changer leur comprendre ces sujets et changer leurs pratiques, pour faire simple. Et effectivement, en fait, tout ça a commencé parce que j'en avais ras-le-bol d'entendre que des catastrophes dans les médias. C'est vrai que vous, à part sur Vivre FM, vous commencez la journée avec la radio et en général, vous êtes déjà déprimé. Et je me disais, mais c'est pas possible. Oui, il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé, mais parlons aussi des solutions qui répondent à ces enjeux. Il se trouve que avec deux amis à 24 ans, on était partis faire un tour du monde de l'espérance. On avait trouvé des sponsors et des bourses du ministère de la Jeunesse et des Sports, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Mais donc on a pu faire ce tour du monde à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger les choses. Et quand on est rentré, on a écrit un livre qu'un éditeur nous a commandé, et contre toute attente, ce livre a été un best-seller. Et là, je me suis dit, si notre livre s'est vendu alors qu'on était inconnu, pourquoi les médias disent toujours que les bonnes nouvelles n'intéressent personne et que pour faire de l'audience, il faut faire du catastrophisme, etc. Je me suis dit, il y a quand même peut-être un petit problème. Donc j'ai interviewé beaucoup de journalistes, j'ai essayé de comprendre et je me suis rendu compte en fait que c'était une idée reçue qu'ils avaient. D'ailleurs, on leur apprend à l'école les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut changer? Voilà. Et donc, comment on peut changer? Il faut montrer par la preuve. Et on avait convaincu Libération de faire la une d'un jour le 26 décembre. Alors, ils nous avaient proposé le 26 décembre, qui est en fait le pire jour de l'année en général en termes de vente. Il y avait une grosse résistance au début. C'est pour ça qu'ils avaient choisi ce jour-là, parce qu'il y avait zéro risque. Et puis finalement, ça a été la meilleure vente de l'année.
Ah oui.
Et c'est là où on a pu prouver.
Quel était le titre, vous vous en souvenez?
C'était le Libé des solutions. Et donc les journalistes qui étaient assez sceptiques au début, mais on l'avait fait avec des freelances, se sont dit mais en fait c'était vraiment bien, les sujets étaient super. Et donc chaque année ils le refont. Et donc après avec Spark News, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose mais avec les médias du monde entier, en fédérant un peu comme les Panama Papers mais en version positive, solution, où on a fédéré Der Spiegel, Le Monde, El País, l'Express de Madagascar, enfin des journaux du monde entier ou des télévisions, et on mutualise ce contenu et on peut toucher du coup 100 millions de personnes. Ça a été le point de départ et surtout ça a permis aux médias de se dire mais en fait ces sujets sont passionnants, intéressants, ça intéresse nos audiences, et donc pourquoi on le fait pas plus souvent, si bien que certains journaux comme par exemple le Corriere della Sera qui est l'équivalent du Monde en Italie, maintenant ils ont un supplément qui s'appelle Buono Notizie, donc les bonnes nouvelles, sur l'économie sociale et solidaire, un supplément qu'ils encartent dans l'édition du mardi, et tous les mardis ils vendent 10 000 exemplaires de plus, ce qui était totalement inattendu.
Et alors ce qu'on constate, c'est que souvent ces bonnes nouvelles, elles sont, enfin en tout cas celles que vous nous présentez ou celles qu'on nous présente de manière générale dans les médias, elles sont du domaine de l'environnement. C'est rarement
alors, c'est dans tous les domaines, voilà.
Alors,
c'est dans tous les domaines. Après, nous, on s'attache pas aux bonnes nouvelles dans le sens la mère Michu qui a retrouvé son chat, mais des vraies solutions. Pour vous donner un exemple qui nous intéresse dans le cadre de cette émission, un des projet qu'on avait relayé, c'était l'histoire d'un gynécologue allemand spécialiste du cancer du sein qui se dit, mais en fait c'est quand même triste, je suis le spécialiste du cancer du sein et quand je fais une palpation mammaire, si la tumeur est plus petite qu'un centimètre 5, je la sens pas. Donc je renvoie des femmes chez elles en disant, écoutez, vous avez pas de cancer, alors qu'en fait elles en ont un que j'ai pas détecté. Et c'était vraiment un sujet qui le taraudait, et un jour il se dit, mais bien sûr, il y a des personnes qui ont un sens du toucher beaucoup plus développé que le mien, ce sont les aveugles. Et donc il a créé un institut de formation pour les femmes aveugles qui sont capables de détecter des tumeurs deux fois plus petites que celles que lui était capable de détecter. Si bien que ces femmes détectent des cancers plus tôt, donc des traitements moins lourds et voire peuvent sauver la vie de ces femmes. En plus, ça leur donne un job qui est un job plutôt valorisant. Et surtout, ça change le regard sur le handicap. C'est pas, voilà, vous avez un handicap par rapport aux valides, c'est vous avez un talent que nous, les valides, on n'a pas. Et ce projet-là, on l'avait médiatisé dans le monde entier à travers nos opérations. Et du coup, des gynécologues au Mexique et en Colombie ont connu cette initiative et ils ont répliqué cet institut de formation là-bas grâce à cette médiatisation. Donc c'est un exemple de notre travail. Après, ça, on a commencé par ça. Et aujourd'hui, notre rôle, il est effectivement d'éduquer les médias sur ces sujets, et les journalistes, alors non pas de façon prétentieuse, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont pas simples, et de les aider à réfléchir à comment ils peuvent traiter ces sujets de façon intéressante, non anxiogène, tout en adressant les vrais sujets. Et puis on travaille beaucoup avec les entreprises, grandes ou petites, pour leur faire comprendre ces sujets. Alors, juste un exemple. Si vous voulez qu'une entreprise change, ça commence par la tête. Et il se trouve que j'avais entendu le patron de L'Oréal, avec qui on travaillait, qui m'avait dit moi, c'est mes enfants qui m'ont convaincu de l'importance de ces sujets. Et je me suis dit, tiens, on va faire un séminaire où on va proposer à 12 patrons de venir chacun avec un de leurs enfants pendant 2 jours et demi pour réfléchir à ces enjeux socio-environnementaux. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant que leader, décideur, et le courage qu'il faut. Donc on abordait des sujets environnementaux, etc. Puis aussi, il y avait Randy, qui est un réfugié politique, qui aussi a partagé son expérience et qui a été un témoignage de courage, parce que effectivement, pour les décideurs, que ce soit politique ou d'entreprise, c'est des décisions qui ne sont pas toujours populaires, pas toujours faciles à prendre, et il faut du courage.
Oui. Donc vous touchez la presse, les médias, vous essayez d'influencer avec des nouvelles positives, des nouvelles solutions, et puis vous touchez aussi les entreprises. Alors vous commencez par la tête, vous essayez d'influencer leur manière de faire. Est-ce que ça fonctionne ?
Oui, alors par exemple, on a des patrons du CAC 40 ou des patrons de PME, il y a un peu de tout. Il y en a un qui était le patron d'une entreprise de 27 000 personnes, entreprise familiale. Et au début du séminaire, on demande aux enfants de présenter leurs parents devant tout le monde sous l'angle d'une qualité qui les touche. Donc déjà, ça change un peu, parce qu'en général, quand on a un grand patron, une patronne, on se présente, je suis patron d'une boîte qui fait tel chiffre d'affaires, etc. Et là, par exemple, la fille de ce patron, qui avait 18 ans, me dit, moi, mon père, il a une grande qualité, c'est qu'il a des super idées, des très beaux projets, il est sensible à ces sujets. Le problème, c'est qu'il ne se fait pas assez confiance et il nous en parle, et puis au bout de 3 ans, il n'y a toujours rien. Et il me dit, papa, il faut que tu te fasses plus confiance, tes intuitions, elles sont bonnes, vas-y, quoi. Et en fait, ça, plus d'autres choses pendant ce séminaire, à la fin, il nous a dit, en fait, je pensais passer la seconde sur ces sujets, en fait, il faut que je passe la sixième. Et on a recroisé sa DRH quelques mois plus tard. Il nous a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est en train de changer toute la stratégie de l'entreprise. Et d'ailleurs, il nous a demandé de l'aider, à acculturer, à transformer son COMEX, donc son comité de direction, les 300 directeurs de la boîte, plus aussi travailler avec leurs clients, etc., pour vraiment changer leurs pratiques sur ces sujets, et jusqu'à changer de modèle, en fait, le modèle économique, pour qu'il soit vraiment contributif et pas juste moins polluant ou un peu plus social.
Oui, donc ça, c'est les entreprises. Donc, médias, entreprises, il y a d'autres secteurs où vous intervenez ?
Alors oui, en fait... La difficulté dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens ont du mal à se projeter, en fait. Alors, pour résoudre les problèmes sociaux environnementaux d'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est pas tant l'électrique ou toutes les, ce qu'on appelle les technologies vertes, qui sont d'ailleurs parfois pas forcément toujours des solutions parfaites, voire des mauvaises solutions. Ça dépend, c'est pas simple. La vraie solution, c'est qu'il faut qu'on réduise, en fait, notre consommation. Mais quand vous dites ça aux gens, tout de suite, ils s'imaginent avec des feuilles de vigne et ils disent « Mais attendez, vous êtes pour la décroissance et puis l'effondrement, et puis ça va être horrible, on va plus pouvoir profiter de la vie. » Bah non, en fait, au contraire. Peut-être que si on consomme moins, plus intelligemment ou autre chose, on va pouvoir avoir une vie plus heureuse parce qu'on ne sera pas à courir dans tous les sens, parce qu'on recréera du lien social, etc. Par exemple, quand vous offrez un cadeau, plutôt que d'offrir un jouet électronique ou je ne sais pas quoi, vous pouvez offrir une après-midi avec un spécialiste d'ornithologie qui va vous emmener voir les oiseaux. Et c'est une super expérience, c'est quelque chose que vous vivez à plusieurs, vous consommez pas d'énergie, pas de matière, vous faites travailler quelqu'un, un passionné enfin, qui travaille grâce à sa passion, et vous créez un modèle économique, enfin, vous contribuez à l'économie, vous permettez aux gens de vivre. Donc on peut très bien, voilà. Sauf que ça, il faut se projeter dans tous les pans de tout ce que ça pourrait changer dans nos vies. Et pour ça, en fait, on travaille avec les créateurs, les artistes, les gens qui font les séries, les films, les BD, les jeux vidéo, pour qu'ils puissent intégrer en fait une autre vision du monde de demain qui soit plus frugale, plus sobre, plus cohérente, mais qu'elle soit heureuse et souhaitable. Hein. L'idée, c'est pas de dire aux gens, on va tous se serrer sa ceinture et ça va être horrible. Voilà, donc on travaille effectivement aussi avec ce qu'on appelle ces créateurs. On a créé la fabrique des récits pour... réfléchir aux récits dominants qui doivent émerger, sachant que le récit dominant actuel, il est basé sur la croissance à tout prix. Et la croissance dans l'absolu, pourquoi pas, mais en fait, ça dépend de quelle croissance on parle. Puisque aujourd'hui, sur les sujets climat, en fait, plus il y a de croissance, plus il y a des émissions de gaz à effet de serre. Et en général, la croissance aussi sur l'inclusion, etc., n'est pas toujours compatible, puisque on cherche à optimiser au maximum et donc. On a plus tendance à exclure ceux qui ne suivent pas le rythme. Quoi.
Oui, c'est du journalisme de solutions ce que vous proposez à Spark News.
Alors sur la partie médias, alors oui, c'est ce qu'on appelle le journalisme de solutions, qui est un terme qu'on a
inventé.
Initié il y a longtemps quand j'avais créé notre association. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'au début, les journalistes, quand je leur parlais de journalisme positif, alors bon, c'est vrai que le terme n'était pas forcément bien choisi, mais il me rigolait au nez. Enfin, j'ai eu des moments d'humiliation sur scène. Je me souviens d'un journaliste qui plus tard est devenu patron de Radio France, qui se moquait de moi, enfin, en disant mais c'est pas du journalisme, vous êtes bisounours, machin, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça, c'était au tout début, quand j'avais une façon un peu naïve de présenter la chose.
C'était
en 2003.
D'accord.
Et en fait, je l'ai revu plus tard, il avait oublié cet épisode, et je dis, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de journalisme de solution? Il me dit, c'est hyper important, etc. D'ailleurs, nos journalistes, on les encourage à ça. Et c'était une grande fierté, parce que ce qui avant était perçu comme bisounours, c'est complètement naïf et qui n'avait aucun intérêt et dont on pouvait se moquer, est devenu un critère dans beaucoup de médias. En tout cas, ça a vraiment changé de ton. Ça ne veut pas dire qu'on y est encore complètement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est autorisé, encouragé, et nous, on a des médias qui nous rémunèrent d'ailleurs, même pour former leurs journalistes ou pour les aider à réfléchir à cette façon de traiter l'information.
Oui, et il y a aussi des médias qui achètent vos nouvelles.
Alors nous, on n'est pas une agence de presse, hein, on n'est pas comme l'AFP. Nous, on est plus, on crée des alliances de médias pour les faire travailler ensemble, et on forme d'une certaine façon, on encourage, on contribue à changer l'état d'esprit un peu des médias et des journalistes qui, ont une idée fausse de ce dont on parle. Ils pensent que c'est du bisounours, alors que quand on leur donne des exemples, ils disent « Ah ben non, mais ça,
quels
ça m'intéresse. »
Quels exemples, par exemple,
L'exemple dont je parlais du gynécologue, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a tellement, enfin, on a plus de 5000 projets dans notre base de données, et puis beaucoup qu'on a médiatisés, mais ce que fait le journal Épatant couvre beaucoup de ces sujets. J'ai vu que là, vous avez fait un article sur Hortense Aran qui a créé Fleur d'ici. Voilà, c'est le genre d'exemple qui n'était pas forcément très médiatisé. C'est une femme qui s'est dit, quand on va chez un fleuriste, la plupart du temps, vous avez des fleurs qui viennent du monde entier. Hein. Parfois même, elles sont produites en Bretagne, elles partent sur le marché en Hollande, et ensuite, elles sont revendues dans une boutique en Bretagne. Enfin, c'est aberrant. Et l'équivalent d'un bouquet de roses quand il est produit au Kenya, c'est l'équivalent d'un aller-retour à Londres en avion. Enfin, c'est aberrant.
Oui, c'est fou.
Et donc, du coup, elle a créé une marque, un réseau et un service en ligne où vous pouvez commander des bouquets de fleurs qui ont été produits localement par la personne qui fait le... Voilà. Alors, et ça cartonne. Et ça cartonne. Bon,
ouais,
c'est un exemple parmi d'autres.
Ouais. Donc,
ça s'appelle
Spark...
Fleur d'ici.
Oui, ça c'est dans le
lire
magazine
Épatant
dans le numéro 1. Voilà, exactement.
Exactement.
Et puis si on veut voir vos nouvelles Épatantes, on peut les voir actuellement dans le numéro 2 de l'Épatant.
Voilà,
entre autres, Christian de Boisredon. Je vous remercie d'être intervenu sur Vivre FM.
Merci beaucoup pour votre interview et puis bonne vie et bonne journée à tous.
Voilà, et puis on vous souhaite une très bonne continuation, Christian.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.